RMC, face aux grandes gueules.
Alors, oui.
Il est cravaté, c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale.
Il est vraiment droit, il est cravaté.
Oui, c'est ça. Luc Ferry, avec ce livre aux éditions de l'Observatoire, ne vous mariez jamais vraiment, s'interroge-t-il. On revit des couples, des histoires d'amour célèbres, à l'heure notamment des réseaux sociaux, où on se rencontre comme ça en cherchant celui qui vous ressemble le plus. Bonjour Luc Ferry.
Bonjour ami, je suis ravi de vous retrouver.
On va parler l'éloge du mariage, votre éloge du mariage, mais quand même, tout à l'heure dans l'actualité, on commentait le fait que le gouvernement a renoncé à autoriser le travail des salariés le 1er mai dans certains commerces, boulangeries, boucheries, fleuristes, et bon, ça veut dire qu'il va rien se passer vraiment pendant un an, impossible de faire la moindre réformette.
Vous avez, pour comprendre la situation de la France, indépendamment des personnes, vous avez non plus deux blocs comme de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, où il y avait la droite et la gauche. Vous avez six courants qui se détestent entre eux, qui sont à peu près équivalents. Donc personne ne peut avoir la majorité aujourd'hui. Donc du coup, le gouvernement est totalement bloqué. Et comme la seule ambition de Le Cornu, c'est de rester en place, et qui veulent pas faire sauter le gouvernement. Moi, j'adorerais que le gouvernement saute, hein, franchement.
Ah bon?
Je préférais qu'il y ait des nouvelles élections. Mais eux, ils veulent rester en place. Donc, leur seul but, c'est de rester en place. Donc, Le Cornu est prêt à mettre 12 milliards de taxes supplémentaires sur les entreprises pour acheter le Parti Socialiste à coups de milliards d'euros. Et il est prêt à renoncer au projet qui était celui de Macron. Ce matin, sur une chaîne concurrente, il passait le discours de Macron disant qu'évidemment, il fallait autoriser le travail le 1er mai, etc. Puis bon, il a mangé sa cravate, lui aussi. Et donc, il ne peut rien se passer aujourd'hui puisque personne n'a la majorité.
L'immobilisme est en marche.
C'est la seule chose qui soit en marche, oui.
Oui, l'immobilisme est en marche.
C'est même pas de la faute, à la limite. Si, c'est de leur faute, parce que s'ils étaient un peu courageux, ils se barreraient, mais ils démissionneraient. Mais de toute façon, personne à la place du Premier ministre ne pourrait faire quoi que ce soit aujourd'hui, puisqu'il n'y a personne à la majorité.
Donc il faudrait que le président de la République démissionne, c'est ce qu'avait suggéré Édouard Philippe.
Exactement. Et moi, je pense que dans la situation actuelle, la Ve République est morte.
Ah bon?
Voilà. Mais évidemment. Moi, je suis un vieux gaulliste, j'ai défendu la Ve depuis toujours, et le scrutin majoritaire. Mais je pense que le système allemand est bien supérieur et fonctionne beaucoup mieux. Mais bon, ce serait un autre débat, je vais pas rentrer là-dedans. Mais je pense que, en plus, voyez, on est dans une société qui est tellement complexe aujourd'hui que mettre un gamin à l'Élysée et ça risque d'arriver à nouveau, ça n'a pas de sens.
Quel gamin? Vous pensez à qui?
Devinez. Je vous laisse à vous qui avez.
Au prince consort.
Qui marche.
Au prince consort.
Prince consort. Quand il fait beau.
Non mais Jordan Bardella à l'Élysée, vous y croyez franchement?
Pourquoi pas? En tout cas, c'est un débat, ce qui est très possible. Si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, on aurait un débat entre Édouard Philippe et lui, et ce serait du 49-51 ou quelque chose comme ça. Peu importe. En tout cas, je pense que l'idée du président de la République, ça tenait le coup. Moi, Dieu sait que je suis pas mitterrandien, mais Mitterrand était pas un gamin débile. Bon, jusqu'à Chirac, la politique étrangère de la France était très cohérente, et Chirac était très bon sur la politique étrangère. La politique intérieure, il s'en fichait complètement, mais la politique étrangère était excellente. Et donc, et on avait des gens qui étaient respectés dans le monde entier.
Et là, puisque vous parlez de politique étrangère, on n'a pas, la France n'a pas la bonne position par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient.
On n'a
pas rentré
position.
Dans cette guerre.
On a zéro position, c'est tout. On se conduit, la couardise n'est pas une position.
Ah, on est, c'est la couardise?
Je pense.
C'est-à-dire,
écoutez, je vais pas reprendre le débat sur Trump. Attendons de voir ce qui se passe, mais, il faut pas juger Trump à ses mots ou à sa tête ou à il est odieux, d'accord? C'est clair, tout le monde le voit. Il est grossier, il est vulgaire, il est narcissique, il est menteur. Sur l'écologie ou sur la santé, il dit des conneries. Bon, tout ça, on le voit. Il faut le juger à ce qu'il fait. Et moi, je vous dis d'une manière très simple, mon logiciel moral, il est extrêmement simple. Tout ce qui peut affaiblir le régime iranien m'enchante. Point final. Et je pense que le régime iranien sortira, contrairement à ce que dit le Figaro d'aujourd'hui, très affaibli, non pas forcément sur le plan international, mais mettez-vous à la place des familles, des 30 000 gamins qui ont été assassinés de manière ignoble. Un jour ou l'autre, ils vont se révolter. Pour l'instant, ils peuvent pas, le régime est trop dangereux. Mais imaginons ce qui se passera dans 2 ans ou dans 3 ans. Et là, le régime est quand même très affaibli, contrairement à ce que dit la dernière page du Figaro. Et donc, tout ce qui peut affaiblir ce régime, qui est le pire régime, avec celui d'Afghanistan, qu'on ait connu depuis la chute du nazisme. Donc je pense que le dommage, c'est que Trump soit le seul à faire le boulot.
Mais on devrait l'aider alors, si
évidemment.
Je comprends bien. on devrait l'aider.
Bien sûr.
On n'est pas du bon
côté. Simplement, je dis ça, je suis à peu près, on est deux ou trois en France à le dire. Mais c'est
en France, il y a quand même un mouvement maintenant très anti-Trump.
Mon logiciel
est... Anti-Israël aussi, très fort.
Non, mais anti-Trump, je comprends pas.
Et qu'aujourd'hui, les deux personnages les plus critiqués sont Trump et Netanyahou.
Exactement. Et on a l'impression qu'on critique Trump autant que s'il avait assassiné 30 000 gamins aux États-Unis. Je veux dire, c'est délirant. Voilà. Et donc, j'entends constamment, y compris dans les chaînes de télévision ou les journaux que j'aime beaucoup par ailleurs, des gens qui passent leur temps à critiquer Trump au lieu de critiquer le régime des Mollahs. Je veux dire, je suis désolé, mais on est complètement à côté de la plaque. Oui, je trouve qu'il y a un logiciel qui est simple, tu vois, le bon sens et puis la morale. Un régime qui assassine 30 000 gamins en demandant aux policiers de leur tirer dans les yeux. Mmh. Et vous avez des dizaines de milliers de blessés. Tout ce qui peut l'affaiblir m'enchante. Et c'est pas vrai, il est pas renforcé aujourd'hui, il est très très affaibli auprès de sa propre population. Au moins, en plus, la population iranienne est une population très intéressante parce que c'est pas une population antisémite. C'est une population cultivée, c'est une population avec... Alors là où Trump déconne complètement, c'est quand il dit « je vais anéantir la civilisation ». C'est des propos qui sont indignes et absurdes. C'est pour ça qu'on le déteste, et je comprends ça comme tout le monde, je suis pas idiot. Mais néanmoins, quand on regarde ce qu'il fait, voilà, pour l'instant, je suis désolé, mais j'aimerais qu'on soit à ses côtés.
Antoine,
Monsieur le ministre, quand on vous écoute, moi ça me rappelle.
Ne me dites pas ça, c'est
vous,
fini.
Vous allez voir pourquoi.
Appelez-moi ta majesté comme dans Amicalement Vôtre.
Mais non, ça me rappelle le bon temps de la droite française que j'ai aimée, pour laquelle j'ai milité. Moi j'ai été à l'UMP, j'avais les vieux RPR dans les fédérations qui m'expliquaient, ouais, tu sais Antoine, j'ai croisé De Gaulle, c'était en 62.
C'est, voilà. Vous m'enchantez.
Il y avait tout ça, et quand on vous écoute, on ressent encore ça, cette droite historique gaullienne.
Mais je suis un vieux gaulliste.
Mais alors, c'est plaisant, je vous dis que voilà, c'est très plaisant. Mais alors, comment ça se fait que ce courant de pensée est disparu et été, dilué dans le macronisme, etc. Quel est votre regard sur la droite française aujourd'hui, la possibilité qu'elle revive, ce qu'elle a fait, voilà.
Malheureusement, elle est morte. Donc, elle est coincée. D'ailleurs, le problème de la gauche est le même. Les LR sont coincés entre la possibilité de l'union des droites avec le RN, mais dans ce cas-là, ils se font bouffer par le RN, comme Ciotti, ou bien les accords avec le centre, avec Édouard Philippe, et dans ce cas-là, ils deviennent macroniens. Et donc, les LR sont aujourd'hui à 13%, en gros, dans les sondages, ils n'ont aucune chance d'être au deuxième tour de la présidentielle. Et moi, c'est mon malheur, parce que je suis gaulliste, j'étais gaulliste à l'âge de 12 ans. Alors, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis, je pouvais pas être autre chose que, en 68, j'étais gaulliste, évidemment. Mm-hmm. Et j'avais beaucoup d'amitié pour Rocard, pour Jacques Julliard, avec qui j'ai fait une émission pendant des années, parce que je trouvais que cette social-démocratie avait quelque chose d'aimable et de juste. Il y avait des gens bien dans la social-démocratie. Cazeneuve aujourd'hui, c'est un type bien, voilà. Mais il n'a pas signé le NFP. Ouais.
Et donc les gens bien ont disparu en politique.
Voilà. Et tout ça...
La social-démocratie et la droite traditionnelle que vous défendez, justement...
Bah, ils sont morts.
Ils sont morts.
Bah, ils sont morts. Et le problème de la social-démocratie, c'est pareil. C'est le problème de... Il y a d'un côté le problème de l'union des droites et de l'autre côté le problème de l'union des gauches. Oui. Ils ont LFI d'un côté, le RN de l'autre. Voilà. Donc ils sont donc voilà.
Mais c'est eux, ils ont moins quand même de problèmes. Eux, ils ont quand même moins de problèmes à s'allier provisoirement pour gagner des sièges. Qui dans les municipalités, qui à l'Assemblée, ils se bougent quand même moins le nez que le Parti socialiste.
Ah,
ils se bougent quand même moins le nez pour rejoindre LFI.
Depuis toujours.
Voilà. Alors qu'à droite, on se bouche le nez définitivement.
Chère madame, on a encore un parti communiste aujourd'hui. Ah, oui. Alors que le communisme a été responsable de 120 millions de morts dans le monde. Mais pourquoi pas un parti nazi pendant qu'on y est? Donc c'est, je veux dire, on est chez les fous. On est chez les fous. Voilà, c'est inimaginable. J'entendais ce matin le patron du Parti communiste parler de la liberté. Enfin, les mecs, ils ont été staliniens jusqu'au bout des ongles. Et ça a été le pire régime. Il a fait deux fois plus de morts que le régime nazi. Mais on est encore en train d'avoir un parti communiste en France.
Mmh. Oui, mais
je suis pas
temps,
pour l'interdiction des pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il représente 2% des Français. Bon.
Oui, mais le général
pourtant,
de Gaulle.
Quand on écoute la gauche, il y a des fascistes partout.
Le général de Gaulle avait fait rentrer des communistes au gouvernement après la guerre.
Mais parce que.
L'heure était à la réconciliation
Évidemment, parce que c'est le parti des fusillés, on avait oublié le pacte germano-soviétique.
Exactement.
On s'était empressé de l'oublier, parce qu'au final, les communistes, voilà, c'est, et il y avait des jeunes communistes qui avaient été formidables, qui avaient été résistants et qui ont été assassinés
par les nazis. Oui, mais ils ont bien attendu que Moscou leur dise de résister pour résister.
Souvenez-vous, moi, quand j'étais gamin, le Parti communiste était quasiment à 30% de l'électorat. Et tous mes copains de ma génération, moi j'ai 75 ans, ils étaient tous communistes, trotskistes ou maoïstes. Sans exception.
Et aujourd'hui, ils sont toujours.
J'avais des belles carrières.
Voilà. Et j'avais deux personnes que je respectais par-dessus tout. J'ai fait venir Raymond Aron dans mon cours, dans mon séminaire, et j'endormais son. Voilà.
C'est simplement une petite parenthèse, par exemple, sur le trotskisme. On accepte facilement des gens, aujourd'hui des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, etc., de se dire j'étais trotskiste, Lionel Jospin était trotskiste,
Lambertiste en plus.
Mais on a oublié aussi que Trotsky a participé à mettre en place ce régime de terreur.
C'est lui qui l'a mis en place, même toute la police politique, c'est Trotsky.
Madame historienne peut vous raconter la révolte de Kronstadt, 30 000 morts, parmi des marins qui se révoltaient parce qu'il y avait simplement des asticots dans le truc qu'on leur donnait à bouffer sur leur bateau.
Exactement.
Ils se sont révoltés et c'est Trotsky lui-même qui a fait assassiner 30 000 personnes à Kronstadt.
Mais bien sûr.
Et donc il y a un livre magnifique sur Kronstadt, lisez-le. Et n'oubliez pas que Trotsky était le chef de tous les tribunaux politiques et de tous les assassinat politique pendant très longtemps. Après, il s'est pris un piolet dans la tronche, mais bon, c'est pas la pire chose qui soit arrivée dans le monde.
Pour revenir un tout petit peu à la politique, c'est mon dada. Vous avez balayé du revers de la main l'union des droites. Alors, on a beaucoup parlé de la gauche, etc.
Je dis que c'est...
J'aimerais bien vous entendre là-dessus.
C'est la mort de la droite aussi, l'union des droites.
Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est pas justement la planche de salut d'une droite qui arriverait à se faire respecter dans...
Bien sûr, le problème, c'est que dans l'état actuel des choses, comme en gros, quand vous regardez la situation politique des deux partis RN et LR, la grande difficulté pour les leaders LR, c'est qu'ils seraient littéralement dévorés, comme Ciotti, il deviendrait juste un appendice du Rassemblement National.
Ciotti s'en sort bien.
Mais
justement, grâce à l'union des droites. Mais il s'en sort pas bien sur le plan, pas comme présidentiable. Il est pas présidentiable.
Ah non, bien sûr.
Ah oui, mais je pense que.
Non, mais moi je parle de la présidence de la République.
Alors qui est présidentiable aujourd'hui?
Alors, écoutez, il y a d'un côté l'union des centres, c'est Édouard Philippe, en gros, et donc c'est très clairement le cas. Puis de l'autre côté, il y a Bardella ou Marine Le Pen, c'est tout.
Mais Luc Ferry, attendez, je voudrais revenir.
Je crois pas du tout à Mélenchon au deuxième tour, parce que mes copains de droite me disent, mais non, tu te vois pas, c'est épouvantable, c'est la terreur. Non, Mélenchon s'est ridiculisé tellement souvent que je crois pas du tout
à Glucksmann, etc. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous dites sur la question de LR qui serait dévoré par le RN.
Oui,
je pense que le RN manque aussi peut-être de certains cadres très crédibles pour avoir des ministères importants. Moi, je pense que si LR faisait le pari d'aller avec le RN et de proposer leur expertise gouvernementale que le RN n'a pas, je pense que le RN serait quand même ravi d'avoir des grosses pointures comme des Retailleau, comme des Wauquiez. C'est quand même des gens qui ont une expérience ministérielle, qui ont une expérience du gouvernement. Ils seraient peut-être pas, s'ils le faisaient intelligemment, ils seraient pas dévorés par le RN parce que le RN aurait plus besoin d'eux que peut-être eux n'ont besoin de lui.
Alors, vous oubliez une chose importante, c'est qu'ils ont déjà 5 candidats à la présidentielle, juste les LR. Et que deuxièmement, vous avez la jurisprudence Chirac qui est reprise aujourd'hui par Jean-François Copé qui ferait que le parti serait coupé en deux. Donc non, ça ne marcherait pas.
Oui, mais le parti qui serait coupé en deux, il irait chez les macronistes.
Moi, je ne suis pas du tout hostile. Par exemple, je pense que Rachida Dati aurait dû évidemment s'allier avec Knafo et avec Bonnazel, plutôt de refuser et de laisser Grégoire être élu. Bon. Mais donc, je ne suis pas hostile systématiquement à l'union des droits. Je dis que dans l'état actuel des choses, le parti exploserait encore plus et ils sont 5 candidats à la présidentielle à se partager 13%
Les électeurs sont partis.
Donc je dis que le parti est mort, c'est tout.
À ce qu'on appelle la droite libérale qui n'a jamais vraiment fonctionné en France.
Non, il n'y en a jamais eu, non.
Alors, il y a David Lisnard qui veut l'incarner le maire de Cannes. Est-ce que vous pensez qu'il a eu une chance?
Non. David Lisnard, j'ai même de l'affection pour lui. J'ai de l'amitié pour lui, j'ai de l'affection pour lui parce que c'est vraiment un type bien. Alors, il quitte les LR, mais il ne fera pas 5%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la réalité. Et donc, c'est un excellent maire, c'est un très très bon maire des maires de France, si je puis dire. C'est quelqu'un de très bien. Il incarne en effet une position libérale qui est tout à fait intelligente. Mais je le vois à 5-6%. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je le regrette. je voterai volontiers pour lui. Mais je vois ce parti en train d'exploser avec Wauquiez, Retailleau, Lisnard, et puis je sais pas qui, et puis Darmanin, et puis je sais pas qui
encore. Xavier Bertrand,
voilà, donc, voilà, et les mecs, ils sont 12 à se présenter sur 13% des voix. Donc, voilà. Et si en plus, ils font l'union des droites, le parti est coupé en deux.
Oui.
Parce que Jean-François Copé incarnera la jurisprudence Chirac et dira, vous êtes des salopards, vous allez chez les nazis, ou à peu près, vous voyez.
C'est un bon
mot. J'y peux rien, je vous décris comme c'est pas ma, ça me désole. Voilà. Parce que je suis d'accord avec le jeune homme.
Luc Ferry reste avec nous, question d'Abel Bouilly. Et puis on parlera amour, on parlera mariage.
Moi, ça m'intéresse, ce mariage.
Ne vous mariez jamais vraiment aux éditions de l'Observatoire. Luc Ferry est dans les GG.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, on reçoit un philosophe, on reçoit un éternel amoureux. Ne vous mariez jamais, c'est Luc Ferry qui est avec nous. Ne vous mariez jamais, point d'exclamation, vraiment, point d'interrogation. Ces éditions de l'Observatoire, on va en parler de livres. Abel Bouilly, éducateur.
Une question à l'ancien prof de philo.
Oui.
Vous qui parlez d'un côté de l'amour-passion en opposé, je fais exprès d'utiliser ce terme, à l'amour stable, l'amour à la papa.
Oui.
Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement dans le périscolaire et de tous les scandales autour de la pédocriminalité? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que vous savez que philosophiquement et historiquement, la France fait partie de ces pays qui ont participé à l'exaltation du corps de l'enfant. C'est comme ça que les pédophiles se définissaient. Il y a d'ailleurs Inès Chatin qui a été une des victimes, justement, de ce que j'appelle le gang de la rue du Bac, avec toutes ces sommités qui abusaient d'enfants. Avez-vous eu affaire à des cas pendant que vous étiez à l'Éducation nationale, soit en tant que prof, soit en tant que ministre? Et que pensez-vous de la question globalement?
Oui, j'ai même été témoin dans un procès. Donc, c'était procès d'un instituteur. Mais là, ce qui s'est passé dans le périscolaire à Paris, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que on a quand même 75 personnes qui sont plus que suspectées d'avoir violé ou agressé sexuellement des enfants de classe de maternelle, c'est-à-dire des 4 ans, 5 ans, 3 ans. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Et là où vous avez entièrement raison, et j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'avais publié le premier livre contre la pensée 68. Mm-hmm. Bon. Et rendez-vous compte que jusque dans les années 70-80, Libération publie un manifeste pour la libération des pédophiles. Mm. Pas une blague. Et donc, il y a ces fameuses pétitions, oui, qui sont publiées en 1977 dans Libération et dans Le Monde pour libérer les deux ou trois types qui ont été condamnés à 3 ans de prison pour des agressions pédophiles sur des mineurs. Bon. Et les pétitions sont signées par Sartre, Simone de Beauvoir, Châtelet, mmh, Deleuze, enfin, toute la pensée 68 y est. Voilà. Et ça se termine. Oui, bien sûr, Jack Lang. Et ça se termine. La pétition, ça se termine. Nous défendons la légalisation des relations entre adultes et enfants, des relations sexuelles entre adultes et enfants. Et il y a un livre, je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment ignoble. René Scherrer, qui était le patron de la philosophie à Vincennes, qui publie un livre avec Guy Hockenheim qui s'appelle Coïré. Coïré, ça donne coït en bon français. Et donc, Coïré, et ce livre a une préface dans laquelle il explique que le scandale de l'Éducation nationale, c'est qu'elle interdise la pédophilie. On dit pédérastie, ils disent pédérastie parce qu'ils parlent de Platon. Et ce livre est truffé d'images d'enfants nus toutes les 10 pages. Je l'ai chez moi, mais ça vaut la peine de le regarder. Coïré par René Scherrer et Guy Hockenheim. Et donc, on a là, en 68, cette idée...
On revient de loin.
Voilà, il faut libérer le corps et libérer la sexualité des enfants. Bon, Danny Cohn-Bendit a eu les problèmes qu'on sait. Lui, il n'était pas pédophile, mais il défendait ça en disant, voilà, j'ouvre ma braguette quand une petite fille demande à caresser mon sexe. Voilà, bon, il ne l'a jamais fait, c'était des conneries, voilà.
Mais il y
a beaucoup de gens qui l'ont fait. Voilà, et notamment parmi ceux qui signent cette pétition. Mais même Kouchner a signé la pétition, le pauvre vieux.
Oui.
Alors qu'il n'était pas pratiquant, évidemment.
N'y avait-il pas possibilité, à l'époque où vous étiez ministre de l'Éducation nationale, de pouvoir agir dessus? Parce qu'on sait que...
Moi, je ne savais pas le périscolaire, excusez-moi, là, d'abord, le périscolaire.
Non, pas forcément le périscolaire, mais même on sait qu'il peut y avoir des profs.
Non, 1000 fois moins que dans l'Église. Non, il y a eu très peu de profs, en fait. Ça a été très, très rare dans l'Éducation nationale. Moi, j'ai beaucoup écrit sur la pédophilie, sur la pédophilie 68. J'ai publié un tas de papiers sur mai 68 et la pédophilie. Bon. Mais j'ai regardé regardé ça, évidemment, quand j'étais ministre, de très près, il y avait très peu de cas. En revanche, vous avez 20 000 prêtres dans le monde qui sont mis en examen aujourd'hui.
C'est beaucoup. Il y a eu la commission Sauvé qui a enquêté sur les
centaines de milliers. Et Sauvé, qui est un catholique fervent, a été incroyablement courageux. Parce qu'il a dit la vérité. Voyez, bon, je ne veux pas citer d'autres gens.
Mais si on en vient à l'amour et au mariage.
Oui, j'aime mieux.
Alors,
mais pourquoi faire l'éloge du mariage
à l'époque de Tinder et des applis?
Non, ce n'est pas l'éloge du mariage. Vous savez, 5 mariages sur 10 se terminent aujourd'hui en France par un divorce. Donc, et si on comptait les séparations en plus, parce que vous avez des gens qui restent mariés mais qui sont séparés, on arrive pratiquement à 7 sur 10. Alors, ce qui m'a intéressé dans la révolution de la courtoisie, cette littérature magnifique 12e, 13e, c'est que à cette époque, l'amour-passion est interdit dans le mariage, il ne peut exister que hors mariage. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette période, on va sacraliser ce que les courtois appellent le dieu amour et la femme. Elle est plus importante, et le dieu amour est plus important que le dieu chrétien, et la femme est plus importante que le roi. Et il y a deux légendes qui sont magnifiques, celle de Tristan et Iseut, on est en gros en 1175, la première version écrite, celle de Béroule, et dans laquelle, très important, Tristan trompe son oncle, qui est le roi Marc, avec Iseut qui est marié avec le roi Marc, alors qu'il adore le roi. Simplement, l'amour est plus important que la loyauté envers le suzerain, ou même envers Dieu, le Dieu chrétien. Le Dieu amour est plus important. Et du coup, dans cette courtoisie, il y a un livre magnifique, De Amore, le De l'amour de André Le Chapelain, qui est probablement un prêtre catholique, et qui explique justement ce que c'est que la courtoisie, et que l'amour-passion n'est pas licite dans le mariage. Saint Jérôme dit, il est illicite, il est adultère. On dit adultère, non pas pour dire qu'on trompe sa femme, mais pour dire que c'est faux. Il est illicite d'aimer son épouse comme on aime sa maîtresse. Ça en dit long. Ça veut dire quoi? L'épouse, on l'aime d'amitié et devoir conjugal, debitum conjugale, mais la maîtresse, on l'aime d'amour-passion, mais c'est hors mariage. Voyez. Or, ce que nous avons essayé de faire à partir du 19e siècle, en inventant le mariage d'amour, c'est de réconcilier les deux. On n'a pas réussi.
C'est là que ça a commencé les problèmes.
Voilà. Parce que l'amour-passion ne peut pas tenir éternellement dans
mais
la vie.
Mais on aime qui? Celui qui est comme nous ou celui qui est différent de nous ou celle qui est différente de nous?
Alors, c'est tout le thème de la fin de mon livre sur Tinder et Hinge. Parce que sur les je me suis beaucoup intéressé, comme aux religions, à ces applications de rencontres. Vous savez que 25% de nos jeunes se rencontrent par Tinder. Voilà. Et donc, qui repose sur ce qu'on appelle en anglais le matching, c'est-à-dire la correspondance. Un peu comme les réseaux sociaux ont des algorithmes qui vous enferment
avec des gens qui pensent comme vous.
Voilà. Et donc, moi, je pense que les couples qui durent, et c'est le secret de la durée, y compris dans la littérature courtoise, il y a quelques romans dans lesquels l'amour-passion s'épanouit dans le mariage, comme Éric et Énide, ou Yvain le Chevalier au Lion, qui sont deux romans magnifiques. Et c'est simplement, c'est le non-matching, paradoxalement. C'est quand vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas comme vous.
Ah bon?
Ben évidemment. C'est la distance qui fait que le couple peut tenir. C'est la différence. C'est la singularité.
C'est l'absence de quotidien, basique.
J'ai des amis qui habitent dans deux appartements différents. Alors, il y a une andouille qui me disait, il faut être riche. Non, on n'est pas obligé d'avoir 2-6 pièces, on peut avoir 2 studios, et qui habitent dans 2 appartements différents parce qu'ils préfèrent se retrouver quand ils ont quelque chose à faire ensemble.
Exactement.
Donc, en fait, les applications se font fausse route. Il faut rencontrer quelqu'un qui ne nous ressemble pas.
Le modèle de couple traditionnel fait fausse route. C'est ce que vous dites.
Alors, le couple traditionnel jusqu'au 19e siècle était un couple arrangé.
C'était un mariage d'intérêt.
Philippe Ariès,
le modèle de nos jours.
Je cite dans un passage de La Princesse de Clèves dans mon livre que j'adore, puisque La Princesse de Clèves était amoureuse du duc de Nemours. D'accord? Et le duc de Nemours était fou amoureux de la Princesse de Clèves. Elle était mariée, mariage arrangé par sa mère, avec le prince de Clèves. Et puis, il y a un moment où le prince de Clèves meurt. D'accord? Il se retrouve libre. Et donc, le duc de Nemours va voir la princesse de Clèves, il saute par-dessus les murs. Alors, c'est symbolique, il franchit tous les obstacles qui séparent d'elle. Il lui dit, voilà, nous sommes libres, on peut se marier. Et elle lui dit, non, surtout pas, car si nous nous marions, l'amour-passion que nous avons l'un pour l'autre disparaîtrait. Et elle ajoute cette phrase incroyable. Mon mari était amoureux de moi parce que je ne l'aimais pas. Ouais. Et du coup, elle maintenait la distance. Voyez, du coup, le type, il était fou amoureux parce que il était soupirant.
Pourquoi est-ce qu'on cite toujours Roméo et Juliette comme l'histoire d'amour absolu?
Non, c'est pas. Alors
tragique même.
Oui,
Luc Ferry.
C'est pas celle que je préfère. Alors si elle a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle se passe dans une période de l'histoire, Béatrice le sait mieux que quiconque, où le mariage arrangé est la règle. Mm-hmm. C'est la règle. Et donc, en fait, ils sont en train d'enfreindre une règle qui est celle du mariage arrangé. Ouais. Hein, jusqu'au 19e siècle, la règle absolue, c'est le mariage
arrangé. Quel âge ont-ils, Roméo et Juliette, faut le rappeler quand même.
C'est des gamins, ils ont 16-17 ans. Ouais, c'est ça. Et ils vont, en plus, les deux familles se détestent, et ils vont réaliser un mariage grâce à un prêtre qui est un ami, un mariage d'amour. Et du reste, c'est dans l'Église qu'on va défendre le mariage d'amour en premier.
Ce qui marche pas bien dans Roméo et Juliette, justement, c'est que le Roméo, il a pas d'aventure épique, pas de quête, etc. Il est là.
Non, mais ça dure pas, de toute façon. Il meurt tout de suite, ça dure pas.
Et donc, tous les vieux récits que vous nous ressortez, là où ça dure, c'est quand l'homme a une quête épique, qu'il manque à sa femme, qu'il manque de mourir 20 fois.
Oui.
Et donc, ça, pour moi, c'est une éloge. C'est une éloge à laisser vos mecs aller vivre des aventures, aller à la chasse avec les copains.
Mais c'est pour ça que ça dure, c'est parce qu'elle ne le voit pas souvent.
Voilà, mais donc on sera d'accord.
Ils sont pas. Et le problème de la vie conjugale, c'est que l'être aimé, il est en permanence sur l'évier, si je puis dire. Il est là.
Exactement.
Et voilà.
On est bien d'accord. Et en plus, il est sur l'évier, on lui demande de faire la vaisselle. Alors bonjour, le tue-l'amour.
Ouais, enfin, c'est moi qui fais la boîte. Mais. Le meilleur roman de c'est Chrétien de Troyes, c'est Érec et Énide. Érec et Énide se marient, et puis alors, tous les copains, Érec est un chevalier, et tous ses copains lui disent, je parle comme aujourd'hui, tu t'embourgeoises, tu fais plus la guerre, tu vas plus dans les tournois, il faut que tu sortes, tu es dans la vie conjugale. Donc il sort, mais il emmène sa femme, mais il décide de ne plus se parler pendant une année entière. Évidemment, c'est symbolique. Mais ça veut dire que si on ne préserve pas l'altérité de l'être aimé dans le mariage, on va vers le divorce.
Vous vous intéressez beaucoup à l'amour courtois, etc. Mais le grand tournant aussi de l'amour et de la compréhension de ce qu'est la quête aussi de l'amour, c'est le roman du 19e, et en particulier Flaubert, Madame Bovary. Parce que Madame Bovary, elle croit toujours que l'amour-passion existe. Bon, il n'existe pas, Rodolphe, ça casse quand même pas des briques. Oui. Et son mari, quel pauvre homme. Mais en même temps, c'est celui qui sera là jusqu'au bout. Donc est-ce que, justement, entre l'amour-passion qui ne dure pas et l'amour-attachement, vous avez l'air de, à aucun moment, vouloir vraiment concilier les deux.
Non, au contraire, je passe tout mon livre est un plaidoyer pour la conciliation des deux. Et d'ailleurs, je pense, écoutez, il y a quand même 20% des mariages qui tiennent la route.
Oui. Ah, 20.
Et donc, 20%, c'est déjà beaucoup. Mais je cite évidemment l'encyclique de Benoît XVI, que j'ai trouvé géniale, moi qui ne suis pas croyant. O Theos Agapestin, en bon français, donc Dieu est amour, et dans laquelle encyclique Benoît XVI fait tout pour réconcilier Eros et Agapé. C'est ça le problème.
Très intéressant.
Et donc, c'est son plaidoyer, ce qui est assez nouveau dans l'Église d'ailleurs, c'est très intéressant. Et donc, il essaye de réconcilier.
L'amour est un choix de tous les jours.
Et puis surtout, il reprend la phrase de Kant, il dit Agapé sans Eros est vide, Eros sans Agapé est aveugle. La phrase de Kant sur le concept et l'intuition, peu importe. Mais évidemment, il est allemand, c'est une référence précise pour lui. Mais c'est très intéressant. Donc moi mon plaidoyer, c'est pour la réussite de ce mariage. Mais évidemment que c'est très difficile.
Oui,
parce que
juste un point, justement, notre société, c'est pas la société de la durée, c'est la société de l'immédiateté. Donc dans une société qui ne conçoit les relations humaines pas qu'amoureuses, que dans de l'immédiateté, le tout de suite et le dès que quelque chose consiste
le plaisir
à faire
tout de suite.
Et faire un petit effort, surmonter un petit obstacle, j'abandonne. Et je peux vous dire, et vous le savez, la nouvelle génération, on le voit même dans l'effort scolaire, c'est à la moindre difficulté, j'abandonne. Si on abandonne à la moindre difficulté, l'amour-attachement ne naîtra jamais de l'amour-passion. Donc comment on fait ?
Comment on fait ? J'ai pas de baguette magique.
Ah
le problème, c'est ce que je dis, ce qu'il faut faire.
Je dis
à mes enfants comment il faut faire. C'est tout. Je leur dis voilà. J'ai une fille qui vit avec son chéri depuis 7 ans. Je suis sûr qu'ils vont passer les 20 ou 30 ans qui viennent ensemble. C'est en tout cas ma conviction et c'est la leur. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont chacun leur travail. Ils vivent pas toute la semaine ensemble. Ce garçon est formidable. Il est extrêmement intelligent. Il a 25 ans, mais il a déjà
le gendre a été
créé un travail. Il est incroyable, ce gamin. Et ma fille aussi, d'une certaine manière. Ils ont tous les deux leur boulot. Ils vivent pas toujours ensemble.
Voilà. Ils feront des enfants parce que le mariage
était aussi. Ils sont tellement mignons.
Non, mais le mariage, c'était aussi c'était pour la descendance.
Mais évidemment.
Le mariage. Mais attendez, on est une nouvelle génération.
Impatiemment les bébés.
Oui, mais on est une nouvelle génération qui ne veut plus faire d'enfants, en tout cas qui veut en faire moins.
Alors, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen du mariage aujourd'hui, cette année en France?
37 ans, le mariage.
Non, en 1900, c'était 22 ans, 21 ans. Sûr, ouais. Et donc, évidemment, aussi que la dénatalité est liée.
Il faudrait dire premier mariage, âge du premier mariage.
Je parle l'âge moyen du mariage. Ouais, okay. Après, vous pouvez raffiner.
Ouais, c'est ça,
mais c'est quand même dingue.
Et le premier mariage.
Et donc, moi, évidemment, je dis simplement aux jeunes qui se marient ou qui vont se marier. Mais surtout, ne vous étouffez pas l'un l'autre. La pesanteur et la grâce, Simone Veil. L'immense risque, c'est de perdre la grâce au profit de la pesanteur. Parce qu'on est là tous les jours ensemble. Et si on n'a pas chacun un métier, si on n'a pas chacun, en tout cas, des occupations très fortes, et si on est constamment l'un sur l'autre, si on est jaloux, par exemple, la pesanteur, la jalousie est une forme de pesanteur, on bouffe l'altérité. Et c'est pour ça que les applications de matching, là, comme Hinge ou Tinder, c'est très bien pour se rencontrer, mais c'est pas bien pour la durée. Vous voyez?
Luc Ferry, ne vous mariez jamais, point d'exclamation, vraiment. Combien d'années de mariage, Luc?
Ah, bah, presque 28.
Et combien de mariages?
3.
Il a beaucoup d'éditions.
Celui-là, c'est le dernier.
Il tient.
Aux éditions de l'Observatoire.
Mais j'aime toujours ma femme, mais bon, voilà, peut-être que je ne suscitais pas chez elle l'amour-passion suffisamment. C'est aussi ça.
Merci Luc Ferry d'être passé par les GG. Le livre, on vous le conseille, aux éditions de l'Observatoire, ne vous mariez jamais, vraiment.